Bienvenue à toutes et à tous dans ce forum de l'actualité locale, un forum consacré cette semaine à la découverte des manuscrits de la Mer Morte et des secrets qu'ils renferment. Nous sommes pour cela avec vous, Angelika Kraus, bonsoir.
Bonjour.
Vous êtes pasteur de l'église réformée de Bourges-Vierzon et vous étiez présente à cette conférence passionnante, une conférence qui a eu lieu le 25 mars dernier à Bourges sur un sujet qui passionne archéologues, chercheurs et l'ensemble du monde religieux, le secret des manuscrits de la Mer Morte. C'est Michael Langlois qui animait cette conférence, passionné de Qumran et docteur S sciences historiques et philologiques à l'EPHE Sorbonne. Il est également maître de conférence à l'université de Strasbourg et également chercheur associé au CNRS et au Collège de France. Bref, quand il parle, on l'écoute. Cette conférence était réellement passionnante et enrichissante quant à la compréhension que l'on peut avoir de la Bible. La rédaction de RCF en Berry était également présente lors de cette conférence qui a duré plus de deux heures. Une conférence divisée en deux parties. La première concernait l'histoire du site de Qumran d'un point de vue archéologique. Il s'agissait de comprendre comment les archéologues ont pu conclure que Qumran était sans doute un site à caractère religieux. Nous avons avec vous, Angelika Kraus, réduit cette première partie au cours de laquelle Michael Langlois s'appuyait sur des photographies pour illustrer ses propos. La retransmission radiophonique de cette conférence débute donc avec les conclusions des archéologues sur l'histoire de Qumran. En fait, c'est surtout la deuxième partie de cette conférence sur laquelle nous allons nous attarder avec cette problématique qu'apporte la découverte des manuscrits de la Mer Morte pour notre compréhension de la Bible. Nous retrouvons donc tout de suite Michael Langlois pour cette conférence sur les manuscrits de la Mer Morte.
Il est évident que ceux qui ont creusé ces grottes l'ont fait à proximité de ce site parce qu'ils étaient sur place, parce qu'ils étaient sur le site. En outre, sur le site lui-même, on a découvert des débris de poterie sur lesquels on avait inscrit. Vous savez, quand on avait des jarres et qu'on avait du contenu, on avait l'habitude de libeller ces jarres. Peut-être vous avez ça aussi chez vous, des pots avec marqué sel, poivre, farine, etc. Moi, j'avais ça chez mes grands-parents, avec les libellés. Eh bien, c'est pareil, à l'époque, on a des jarres avec de l'huile, avec du vin, avec de la farine. Et donc, on veut savoir ce qu'il y a dans la jarre. Donc, on écrit dessus. Simplement, d'habitude, quand on écrit avec des grosses lettres, et ce sont souvent des gens qui ne sont pas très habitués à écrire. Ils écrivent de façon un peu maladroite, parce que ce n'est pas leur métier. Mais sur le site lui-même, donc le site dont on a parlé, qui est à quelques dizaines de mètres des grottes, on a découvert des vases, des jarres, et on avait avec le nom du contenant, de ce qui était contenu dans ces jarres. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir une grosse écriture maladroite à laquelle on est habitué sur les sites archéologiques, on avait une belle écriture très fine, qui est l'écriture d'un scribe exercé. Et donc, ces débris de poterie ont été publiés par mon directeur de thèse de l'époque, André Lemaire. C'est la preuve que ceux qui habitaient le site, qui occupaient le site, étaient des scribes aguerris. Alors, ça amène à revoir toutes ces hypothèses d'occupation du site. On se dit, finalement, sur ce site, il y a des gens qui consacrent leur vie à copier des manuscrits, des scribes. Alors, quand on pense à des scribes, quand on pense à la copie de manuscrits, peut-être on se dit, oui, finalement, ce sont des photocopies antiques. C'est la façon de l'époque de faire des fax ou comme un scanner. Mais pas du tout. En réalité, le scribe, c'est un lettré. Le scribe, c'est quelqu'un qui est formé pour lire, pour écrire, ce qui n'est pas le cas de la majorité de la population. Certes, la population pouvait, le citoyen lambda pouvait accéder à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, mais ça restait une activité accessoire, et donc tout le monde ne savait pas forcément lire très facilement. Et dès lors que quelqu'un se formait dans les lettres, à ce moment-là, il se forme pas simplement à écrire les lettres, mais il se forme à la littérature. Et donc ce sont des spécialistes. Ce sont des spécialistes des textes, ce sont des gens qui ont une intelligence du texte, ce sont des rédacteurs. Le scribe n'est pas un photocopieur humain. Le scribe, c'est un penseur, c'est un lettré. Et ça veut dire que les gens qui occupent ce site sont des gens qui ont une réflexion par rapport à leur foi, par rapport à leur religion. Puisque ces manuscrits qui ont été découverts sont tous des manuscrits à caractère religieux. On aurait pu imaginer découvrir des manuscrits, des textes administratifs, des textes juridiques. Pas du tout. Tous les textes qui ont été découverts dans les grottes de Qumran sont des textes religieux. Alors on va retrouver tous les genres de textes religieux, tous les genres que l'on retrouve dans la Bible, bien sûr des textes narratifs, des textes poétiques, des textes prophétiques. On va retrouver tous ces genres littéraires. Mais ce sont des textes religieux. Donc on a affaire là à une bibliothèque du judaïsme dans l'Antiquité. On a affaire à une bibliothèque qui représente le savoir de l'époque, les savoirs de l'époque. Alors c'est vrai que les premiers manuscrits qui avaient été découverts, notamment dans la grotte 1, avaient poussé un certain nombre de spécialistes, comme Eleazar Soukenik à Jérusalem ou André Dupont-Sommer à Paris, à émettre l'hypothèse selon laquelle les occupants de ce site étaient des Esséniens. Parce qu'en réalité, un certain nombre de manuscrits qui ont été découverts parmi ces grottes, dans ces grottes, sont des manuscrits qui proviennent des milieux esséniens. Alors pour ça, pour comprendre l'importance de cette théorie et sa viabilité, il faut un petit peu se plonger dans le judaïsme de l'époque. Il y a plusieurs courants dans le judaïsme à l'époque. Les trois courants principaux, tels qu'ils nous sont décrits par les historiens de l'Antiquité, notamment par l'historien Flavius Joseph, qui a vécu à la fin du 1er siècle de notre ère, on nous dit que ce sont les Sadducéens, les Pharisiens et les Esséniens. Ce sont les trois grandes branches du judaïsme. Et ces trois grandes branches du judaïsme ont produit un certain nombre de textes. Des textes littéraires. Ils avaient des sensibilités différentes, des croyances différentes. Par exemple, les Sadducéens, nous dit Flavius Joseph, ne croient pas en la résurrection des morts, ne croient pas en la vie de l'âme après la mort. Alors que les pharisiens, eux, croient dans la résurrection des morts, les Esséniens également. Flavius Joseph nous explique que les Esséniens s'intéressent tout particulièrement aux anges, les noms des anges et les anges déchus. Or, à Qumran, on a découvert justement des fragments de textes qui nous racontent l'histoire des anges déchus et qui nous donnent les noms des chefs des anges déchus. Ce livre, c'est le livre d'Enoch, auquel j'ai consacré donc, ma thèse de doctorat, donc un livre que je connais bien. Et donc, effectivement, un certain nombre de manuscrits viennent de milieux esséniens. Mais en même temps, d'autres manuscrits ne proviennent pas de milieux esséniens. C'est le cas, par exemple, du rouleau du Temple, qui a été découvert dans la grotte 11 et dont on reparlera tout à l'heure. Et ce rouleau du Temple reprend un certain nombre de législations qui traite de l'organisation du temple, les sacrifices, les fêtes religieuses, la Pâque, la Pentecôte, etc. Et ce rouleau, on se demandait de quel milieu il provenait. Et les spécialistes, notamment de lois religieuses, les rabbins, des rabbins notamment, et je pense à quelques spécialistes qui sont encore très actifs en ce moment, ont passé au crible toutes les législations contenues dans ce rouleau du temple et les ont comparées aux législations qui étaient connues dans le milieu pharisien. Et ils se sont rendus compte que ce ne sont pas les mêmes, que les prises de position ne sont pas les mêmes. Et plus loin que ça, ils se sont rendus compte qu'en fait, dans un certain nombre de cas, le rouleau du temple reflétait des prises de position qui étaient connues dans la littérature rabbinique comme étant la position des Sadducéens. Donc aujourd'hui, on est à peu près sûr qu'en fait, ce rouleau du temple, en fait, provient des milieux sadducéens. Et alors là, on se rend compte que finalement, parmi ces plus de 900, on a quelques 900 manuscrits de la Mer Morte aujourd'hui, en réalité, certains viennent de milieux sadducéens, d'autres viennent de milieux esséniens, peut-être certains de milieux pharisiens. En tout cas, on a affaire là à une bibliothèque du judaïsme dans son ensemble. Et aujourd'hui, c'est là le véritable apport des manuscrits de la Mer Morte, c'est de nous permettre d'accéder, de faire ce bond dans le temps, de dire finalement, nous pouvons toucher au plus près toute cette culture, tout ce milieu, toute cette religion, du judaïsme au tournant de notre ère, dans ses différentes branches, ses différentes facettes. Et c'est aussi l'époque de la naissance d'un autre courant. Alors, ce ne sont pas les Sadducéens, ni les Pharisiens, ni les Esséniens, ce sont les Nazoréens. Et ces Nazoréens vont évoluer, vont s'émanciper et devenir ce qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens. C'est la naissance du christianisme. Jésus de Nazareth a vécu au 1er siècle de notre ère, était contemporain des grottes de Qumran. Donc vous imaginez en quoi est-ce que ces manuscrits, aujourd'hui, bouleversent notre connaissance du judaïsme. Alors avant de clore ce chapitre sur l'archéologie, j'aimerais juste faire un petit résumé sur les questions d'interprétation quant à l'occupation de ce site. Plusieurs hypothèses ont été émises. Hypothèse d'occupation militaire, hypothèse d'exploitation commerciale, une auberge de jeunesse, peut-être pas de jeunesse, hein. une hôtellerie en tout cas. Également d'autres types d'exploitations commerciales, traitement de pigments pour réaliser des teintures, etc., etc., etc. Mais finalement, on se rend compte que l'occupation qui semble s'imposer, c'est une occupation à caractère religieux. Ce sont des gens qui se sont installés là pour des motifs religieux. Alors, on a pensé pendant longtemps que c'était une véritable communauté qui habitait sur place. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, peu de gens peuvent vivre à l'année. Donc, si une communauté habitait là, elle était peu nombreuse, mais qu'il était possible que ponctuellement, à des moments clés de l'année, une plus grande population pouvait s'assembler dans ce lieu pour célébrer, par exemple, des fêtes, célébrer des fêtes religieuses. Et qu'en tout cas, ce lieu était un haut lieu à caractère religieux, et notamment un lieu avec une grande bibliothèque de manuscrits. Donc voilà, je m'arrête là pour ce volet archéologique. Ensuite, on va bien sûr s'intéresser au contenu de ces manuscrits. Alors, je passe maintenant à la question du contenu de ces manuscrits, et en particulier aux révélations de ces manuscrits sur la Bible. Qu'est-ce que ces manuscrits nous apprennent sur la Bible ? Alors, je vais commencer par la situation actuelle. On est aujourd'hui en 2013. Peut-être certains d'entre vous ont une Bible, en français, j'imagine. Cette Bible, elle est traduite à partir des textes qui ont été écrits dans les langues originales. L'hébreu, un petit peu d'araméen et le grec. Quand vous lisez la Bible hébraïque, l'Ancien Testament des chrétiens, traduite à partir de l'hébreu, cette traduction, elle est faite sur des Bibles hébraïques complètes. Et en particulier sur la plus ancienne Bible hébraïque complète connue à ce jour, cette Bible, elle date de l'an 1000 de notre ère, à peu près, l'an 1009, pour être plus précis. Donc, c'est-à-dire que les Bibles actuelles, elles sont traduites à partir d'un manuscrit qui a 1000 ans d'âge. Donc, c'est ancien, 1000 ans, c'est vénérable. Mais en même temps, si on y réfléchit, on se dit l'an 1000 de notre ère, c'est finalement assez tardif si on pense à la date de rédaction de ces livres qui sont censés dater d'il y a 2000, 3000 ans. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est de dire, mais finalement, si on traduit aujourd'hui en français à partir d'un manuscrit qui est peut-être 1000, 1500, 2000 ans plus tardif que la date de rédaction, le texte a dû changer. Peut-on avoir confiance dans ce texte ? Et ça, c'était des questions que les spécialistes se posaient, mais auxquelles ils n'avaient pas de réponse formelle. Il y avait des hypothèses, bien sûr. Mais on n'avait pas de manuscrit hébreu plus ancien à se mettre sous la dent. Eh bien, cette situation a été complètement bouleversée avec la découverte des manuscrits de la Mer Morte. Parce que dans ces grottes, on a découvert des manuscrits bibliques. Et donc, au lieu de lire la Bible dans un manuscrit qui date de l'an 1000 de notre ère, on lit la Bible dans un manuscrit qui date du tournant de notre ère, parfois même du deuxième siècle avant notre ère. Donc, on a fait un bond de 1000 ans en arrière pour nous rapprocher de l'époque de rédaction de la Bible. Imaginez le bouleversement. Alors forcément, on a ces manuscrits sous la main, on veut les mettre côte à côte, les comparer aux textes qu'on connaît, et de voir mais finalement quels sont les manuscrits qui ont été découverts là-bas. Est-ce qu'ils sont nombreux ? Est-ce qu'ils correspondent à ce qu'on connaît ou pas ? Alors, un petit tour d'horizon d'abord de chiffres, quelques chiffres. D'abord, commençons par les manuscrits du Pentateuque.
Alors, Pentateuque, qu'entend-on par là ? Angelika Krauss, qu'est-ce que ça regroupe ? Qu'est-ce que regroupe globalement le Pentateuque ?
Le Pentateuque, vous l'entendez, penta, ça veut dire cinq. Et les cinq premiers livres de la Bible sont habituellement appelés Pentateuque, de façon savante, ou Torah, par les Juifs. Les cinq livres qui sont rassemblés dans le Pentateuque sont la Genèse, l'Exode, les Nombres, le Lévitique et le Deutéronome. Et les Juifs disent Torah.
On a découvert un grand nombre de manuscrits du Pentateuque. Les chiffres que je vous donne sont des chiffres qui sont approximatifs parce qu'ils sont amenés à être révisés régulièrement. 29 exemplaires de la Genèse, 25 exemplaires de l'Exode, 26 du Lévitique, 14 des Nombres, 44 du Deutéronome. Donc c'est colossal. Les chiffres que je vous donne ici sont des chiffres qui ont été mis à jour récemment à partir des données que j'ai. En particulier, il y a des manuscrits qui ne sont pas encore publiés. Et je suis en contact avec une équipe internationale qui va bientôt publier un certain nombre de ces manuscrits. Mais il y en a encore d'autres qui n'ont là encore pas encore été publiés. Des dizaines de manuscrits sont encore inédits. Donc ces chiffres vont être amenés à augmenter dans les années qui viennent. Mais dès là, tout de suite, vous pouvez voir dès maintenant qu'il y a une grande disparité dans les nombres de manuscrits. Entre 44 exemplaires du Deutéronome et 14 exemplaires du livre des Nombres, on se rend compte que, manifestement, le Deutéronome est beaucoup plus populaire que le livre des Nombres. On lit davantage le Deutéronome que le livre des Nombres. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire votre Bible. Peut-être que ça correspond aussi à votre habitude de lecture de la Bible, et peut-être que vous ouvrez plus souvent le Deutéronome que le livre des Nombres. Ou peut-être que vous ne lisez rien de tout ça. Alors, un élément intéressant, c'est qu'on a découvert des exemplaires de ces livres dans une écriture qu'on appelle le paléo-hébreu. C'est-à-dire, pas l'écriture judéenne qui était employée à l'époque, mais l'écriture qui était employée à l'époque royale, 500 ans auparavant, un demi-millénaire auparavant. C'est comme si aujourd'hui, j'écrivais non pas avec l'écriture qu'on emploie au XXIe siècle, mais dans une belle écriture qu'on utilisait il y a plusieurs siècles, ou ne sache pas, une écriture gothique, par exemple. Ça veut dire que quelqu'un qui sait lire, qui a appris à lire, mais qui a appris à lire normalement, entre guillemets, ne sera pas capable de déchiffrer ce manuscrit. Donc on copie des manuscrits en sachant pertinemment que peu de gens pourront les déchiffrer, mais en même temps, c'est une écriture ancienne, une écriture archaïque. Et l'emploi de cette écriture, dans le cadre des manuscrits bibliques, est limité au Pentateuque. Et ça, c'est très intéressant, puisque le Pentateuque, c'est la Torah de Moïse, et c'est ce qui est censé être fondamental. Ce sont les récits, les écrits fondateurs, ce sont les écrits qui sont communs à l'ensemble des courants du judaïsme. Tout à l'heure, je vous disais, il y a différents courants, les Sadducéens, les Pharisiens, les Esséniens et d'autres encore. Eh bien, les seuls livres qui sont communs à l'ensemble des branches du judaïsme de l'époque, c'est le Pentateuque, c'est la Torah. Les Sadducéens ne lisent que ces livres-là. Les Samaritains ne lisent que ces livres-là. Donc on voit que ces livres ont un statut particulier. Ils dépassent le cadre simplement de la Judée. Ils sont également lus en Samarie, ils sont lus dans différentes branches. Ce sont les livres fondateurs. Et donc, on leur accorde un certain honneur, et pour certains scribes, on même choisit de les copier avec cette écriture. Autre phénomène intéressant, on a remarqué qu'un certain nombre de ces livres étaient copiés sur un même rouleau. C'est-à-dire qu'on a vu un rouleau qui avait, d'une part, la fin de la Genèse, et immédiatement après, le début de l'Exode. Alors que quand même, c'est déjà un long rouleau. Déjà, si vous copiez toute la Genèse sur un rouleau, c'est déjà assez volumineux. Mais d'enchaîner la Genèse avec l'Exode, ça montre qu'à l'époque, déjà, on comprend que ces livres ne sont pas des livres indépendants. On ne lit pas juste la Genèse comme ça, on ne lit pas juste le livre des Nombres comme ça, isolément, mais qu'en fait, ces livres forment un tout. Il y a déjà la notion de corpus. On commence à rassembler ces livres en disant, pour comprendre ces livres, il faut les lire dans leur ensemble. À l'exception peut-être du Deutéronome, comme on l'a vu, qui lui est abondamment attesté, et on va y revenir tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Outre le Pentateuque, nous découvrons des manuscrits des psaumes. 39 exemplaires du livre des psaumes, c'est également un best-seller. 39 exemplaires du livre des psaumes découverts à Qumran. Et puis également des livres des prophètes. Tous les livres de la Bible hébraïque, sauf Esther, sont attestés à Qumran. Alors je dis sauf Esther, alors on peut s'interroger en disant, tiens, mais pourquoi est-ce que finalement on n'a pas découvert le livre d'Esther ? Il est amusant quand même, ce livre d'Esther. Il est sympathique. Pourquoi l'exclure ? Pourquoi l'avoir enlevé ? Est-ce qu'il y avait un problème avec ce livre d'Esther ? Alors, je ne suis pas sûr qu'en réalité, le livre d'Esther ait posé problème. Voyez-vous, il y a quelques années encore, quand je faisais ce genre de conférence, je disais, tous les livres de la Bible hébraïque sont attestés, sauf deux, Néhémie et Esther. Et puis, il y a quelques années, on a découvert un fragment du livre de Néhémie. Donc maintenant, quand je fais cette conférence, je dis, eh bien, tous les livres sauf Esther. Mais peut-être que d'ici quelques années, on va découvrir un fragment du livre d'Esther. Voyez-vous, Esther, c'est un petit livre. Et comme les découvertes sont assez accidentelles et l'état des manuscrits est quand même assez fragmentaire, assez lacunaire, eh bien, il est bien possible que parmi les milliers de fragments qui n'ont toujours pas été identifiés, se trouve en réalité le livre d'Esther. Donc je ne suis pas sûr que ce soit volontaire, que l'absence du livre d'Esther soit volontaire. Et puis, si on compare, si on continue à faire l'inventaire des manuscrits bibliques, eh bien, on découvre des manuscrits bibliques, mais qui ne font pas partie de la Bible hébraïque. Autrement dit, qui n'ont pas été retenus par les rabbins. Les livres qui sont présents dans la Bible hébraïque aujourd'hui, le choix de ces livres s'est fait plus tard. À l'époque de Qumran, on n'a pas encore choisi quels sont les livres qui doivent être dans la Bible hébraïque. Ce choix, il se fait vraisemblablement au cours du 2e, 3e, 4e siècle de notre ère. La première liste des livres de la Bible hébraïque, on la trouve dans le Talmud. Donc ce sont durant les premiers siècles de notre ère qu'on fixe la liste des livres qui doivent être dans la Bible hébraïque. Eh bien, à l'époque de Qumran, on n'a pas encore fait ce choix. Et donc, on trouve d'autres manuscrits, d'autres de livres qui sont dans des Bibles chrétiennes, mais pas dans la Bible hébraïque. Par exemple, la sagesse de Ben Sira, c'est-à-dire le Siracide. On découvre également l'épître de Jérémie, la lettre de Jérémie. Le livre de Tobit également est attesté à Qumran, alors qu'il n'a pas été retenu dans la Bible hébraïque. Le livre de Tobit est accès en plusieurs exemplaires. On a 5 exemplaires, si ma mémoire est bonne, à Qumran. Également des psaumes qui étaient connus dans des manuscrits grecs et syriaques, dans des Bibles grecques et syriaques. Par exemple, le psaume 151. Le psaume 151 fait partie des Bibles grecques et il a été préservé dans la Bible de l'Église grecque-orthodoxe, par exemple. Alors, il n'a pas été préservé dans les Bibles en Occident, dans la Bible de l'Église catholique romaine ou dans la Bible de l'Église d'Angleterre ou dans les Bibles protestantes. On n'a pas le psaume 151, on s'arrête au psaume 150. Mais si vous allez en Orient, si vous allez en Grèce, si vous allez jusque en Terre Sainte, eh bien vous verrez que les églises là-bas, les églises grecques orthodoxes notamment, mais d'autres églises encore, ont le psaume 151. D'ailleurs, ce psaume a été publié dans la nouvelle édition de la traduction œcuménique de la Bible en français, la TOB. Eh bien, vous y trouverez une traduction française du psaume 151. Eh bien, ce psaume 151 qui était connu en grec, on l'a découvert pour la première fois en hébreu, à Qumran, dans un des manuscrits des psaumes. Et de la même manière, on a découvert le psaume 153, 154, 155, etc. Également, d'autres livres. Tout à l'heure, on a parlé du livre d'Enoch. Moi, j'ai consacré ma thèse de doctorat. On a découvert des manuscrits du livre d'Enoch à Qumran et on continue à en découvrir. Il y a 2 manuscrits du livre d'Enoch qui vont être publiés très bien, très prochainement. Je travaille avec des collègues israéliens et norvégiens à la publication de ces manuscrits. Donc ça va monter à 15 le nombre de manuscrits du livre d'Enoch découverts à Qumran, plus le livre des géants qui lui est associé. On compte une dizaine d'exemplaires, ça fait 25 exemplaires au total de l'ensemble. Vous imaginez, c'est tout autant que le livre d'Isaïe, c'est plus que la plupart des autres prophètes, plus que les 12 petits prophètes, bien plus que Daniel, que Jérémie, Ézéchiel, etc. Donc vous voyez la popularité du livre d'Enoch. Le livre des Jubilés également est attesté à Qumran. Alors ce livre des Jubilés, vous ne le connaissez peut-être pas parce qu'il n'est pas dans votre Bible, mais en réalité, ce livre est dans la Bible éthiopienne. L'Église orthodoxe d'Éthiopie a dans sa Bible le livre d'Enoch, le livre des Jubilés. Et donc ces livres ne nous étaient connus dans leur intégralité qu'en éthiopien, ce qui fait que les spécialistes doivent apprendre l'éthiopien. Moi, j'ai appris l'éthiopien, à l'École des langues et civilisations de l'Orient ancien, à Paris, rue d'Assas, à l'Institut catholique de Paris. Des belles années d'études. On était 2 étudiants, je me souviens. Vous imaginez bien que ce n'est pas des cours qui sont très populaires. On était 2 étudiants. On avait des manuscrits grecs également fragmentaires, mais on n'avait aucune trace de l'original. Et là, pour la première fois, on découvre dans ces grottes des exemplaires du livre des Jubilés dans la langue d'origine, des exemplaires du livre d'Enoch dans sa langue originale. Donc vous voyez un peu les révélations que ces grottes nous apportent concernant la Bible et en particulier concernant les livres qui doivent ou non figurer dans la Bible. Parce que finalement, le fait de découvrir tous ces manuscrits-là pose la question de la composition du canon biblique. Alors je mets canon entre guillemets. Quand je parle de canon, il ne faut pas penser à cet instrument horrible de guerre qui consiste à envoyer des boulets. Certainement pas du tout. Il faut penser à un autre sens qui s'est préservé en français quand on parle des canons de la littérature, des canons de la beauté, des canons de beauté, etc. C'est le sens de règle. C'est un mot grec qui en fait remonte à l'hébreu et qui est utilisé pour désigner le roseau, la tige, quelque chose qui est rigide et donc qui est rectiligne et qui permet de tracer une règle. Et c'est le mot canon, du coup, est utilisé dans les écrits grecs, y compris dans le Nouveau Testament, comme étant la règle que l'on doit suivre. Et quand on parle du canon des Écritures, à partir du 4e siècle de notre ère, on commence à parler du canon des Écritures, c'est-à-dire la règle, la norme, si vous voulez, qui est constituée par les Écritures. Les Écritures en tant que norme, les Écritures qui ont une autorité normative. Eh bien, ces questions, comme je vous le disais tout à l'heure, elles se posent au 4e siècle de notre ère. Là, on n'est pas au 4e siècle de notre ère, on est au 1er siècle de notre ère. On est à une époque où, justement, on n'a pas encore pris de décision quant à l'inclusion ou l'exclusion de tel ou tel livre dans le canon de la Bible. Et ça veut dire que quand on se projette à cette époque, quand on lit les auteurs judéens de l'époque. Quand on lit les auteurs chrétiens du 1er siècle, les auteurs du Nouveau Testament par exemple, eh bien, il faut se dire qu'à leur époque, il n'y avait pas de Bible en un seul volume, comme on l'a à l'heure actuelle. On a sa Bible, on ouvre sa Bible à la page tant, il y a les chapitres, les versets. Tout ceci n'existait pas à l'époque. Les livres avaient été écrits, mais ils circulaient pour la plupart indépendamment les uns des autres. Quelquefois étaient regroupés, c'est ce qu'on avait avec le Pentateuque. Et puis surtout, il n'y avait pas encore eu de décision quant aux livres qui devaient ou non figurer dans la Bible. Alors, on peut quand même se poser la question, on aimerait pouvoir interroger. Moi, j'aimerais pouvoir aller, comme un journaliste, interroger les gens de l'époque, les judéens, les gens à Jérusalem, les gens à Alexandrie, les gens en Samarie, de dire, qu'est-ce que vous reconnaissez comme écriture? Qu'est-ce que vous lisez? Alors, on a des traces. Par exemple, Flavius Joseph nous dit que les Sadducéens ne reconnaissent que la Torah de Moïse, par exemple. Mais que d'autres lisent d'autres livres. Oui, mais lesquels? On aimerait bien pouvoir poser la question peut-être également aux premiers chrétiens. Peut-être on pourrait poser la question à Jésus, à Jean-Baptiste, à Paul, leur demander aux apôtres en disant « Mais et vous, ce livre, vous le lisez, vous ne le lisez pas, vous lui reconnaissez une autorité ou pas ?» Alors grâce à Qumran, on peut se poser la question de dire finalement, y avait-il un canon à Qumran? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui habitaient sur place ou qui ont copié ces manuscrits, est-ce que pour eux, il y avait une liste bien précise? Alors la réponse est probablement pas, puisqu'il n'y a pas, justement, on ne trouve pas de liste de livres en disant voilà la liste des livres que nous reconnaissons comme ayant une autorité, mais qu'on peut malgré tout déceler des critères d'autorité. Je vous donne rapidement quelques petits critères, notamment la prétention du livre à l'inspiration. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je vous raconte, j'écris un roman où je raconte, je ne sais pas, mes vacances à la montagne ou à la mer, en disant voilà ce que j'ai fait chaque jour, j'ai aucune prétention à ce que j'écris ait une quelconque autorité et devienne une norme. Mais si un prophète dit « Je mets par écrit les révélations que j'ai reçues de Dieu, voici l'oracle de Yahvé que je transmets ou voici ce que les anges m'ont révélé », alors effectivement, là, on voit une prétention à l'inspiration divine. Également, un autre critère qui peut être pris en considération, c'est le nombre de copies. Certains manuscrits sont attestés en 1, 2, 3 exemplaires, certains pas du tout. Esther, on ne sait même pas s'il y avait ou pas le livre d'Esther, alors qu'à côté de ça, vous avez une quarantaine d'exemplaires du livre des psaumes, du Deutéronome, c'est colossal. Donc on voit manifestement qu'on a le souci de copier, de recopier, de re-re-re-copier davantage certains livres plutôt que d'autres. Donc ça, c'est probablement un critère qui est révélateur de l'importance que ce livre avait aux yeux de ceux qui les copiaient et qui les lisaient. Également la copie de plusieurs livres sur un même rouleau. Je disais tout à l'heure, quand vous avez la Genèse qui est suivie par l'Exode, ça veut dire que finalement ces deux livres sont considérés comme formant un tout, et ça veut dire qu'ils ont un message qui dépasse le contenu d'un seul livre. L'existence de versions également, de traductions anciennes, traductions grecques, traductions araméennes. On observe l'existence, et là encore, c'est la première fois qu'on a des manuscrits aussi anciens de versions de la Bible dans d'autres langues, notamment le grec et l'araméen. On savait que ces traductions existaient. Pour le grec, on supposait que ces traductions avaient pris place dès le 3e siècle avant notre ère. Pour l'araméen, on se posait la question de savoir est-ce qu'elles étaient anciennes, pré-chrétiennes, ou est-ce qu'au contraire, elles avaient été rédigées durant les premiers siècles de notre ère. Eh bien là encore, on a la réponse. Ces traductions anciennes, elles existaient déjà, on les a découvertes. Alors si quelqu'un prend le temps de traduire dans une autre langue un texte, c'est que manifestement ce texte en vaut la peine, évidemment. Et puis, on pourrait continuer comme ça avec un certain nombre d'autres critères. Par exemple, les citations. Si je viens citer un livre, imaginez, j'essaie d'étoffer une argumentation en faveur de tel ou tel point de vue théologique. Je dis, voilà, moi je crois ceci. Et d'ailleurs, je suis convaincu de cela parce que le prophète Isaïe dit que... Et là, je cite Isaïe. Ou alors, le prophète Jérémie dit ceci. Ou alors, la Torah de Moïse dit cela. Et là, je cite un texte. Évidemment, si je viens citer un texte, c'est parce que je lui accorde une véritable autorité. Et de la même manière, à Qumran, on a un certain nombre de livres qui se présentent comme des citations, qui contiennent des citations d'autres livres, ou qui sont même des commentaires. On a des commentaires entiers, par exemple, commentaires d'Habacuc, commentaires d'Isaïe, etc. Il y a un certain nombre de commentaires sur les prophètes, où là, on cite un verset, on fait un commentaire, ce verset signifie ceci. Ensuite, on passe au verset suivant, et ensuite, on dit voilà ce que le verset signifie. Donc, vous voyez, tous ces critères-là, on peut les utiliser, les combiner, pour essayer de voir quels sont les livres, finalement, qui jouissent de la plus grande autorité à Qumran. Alors, je ne vais pas vous faire patienter plus que ça, je lève le suspense. Voilà le classement que je vous propose en fonction de l'autorité de ces manuscrits. Tout d'abord, les manuscrits dont l'autorité est indiscutable, fondamentale. C'est évident, tout le monde reconnaît de l'autorité à ces livres, à Qumran, le Patateuk, bien sûr, les psaumes et Isaïe. Manifestement, ces livres-là jouissent d'une très grande autorité. Ils sont suivis de près par d'autres prophètes, notamment les 12 petits prophètes, le prophète Daniel, le prophète Enoch, également le livre des Jubilés, qui est très bien attesté à Qumran. Et puis enfin, d'autres livres qui jouissaient d'une certaine popularité, Jérémie, Ézéchiel, Job, d'autres qu'on lit très peu, les prophètes antérieurs, c'est-à-dire Samuel, le livre de Samuel, le livre des rois, etc., le livre des Proverbes, les Mégilotes, ce sont ces 5 petits livres dont fait partie Esther, mais également le Cantique des Cantiques, Coëlette, etc., qui sont peu ou pas attesté à Qumran. Et puis, donc je disais, voilà, certains d'autorités incertaines, Esdras, les chroniques, etc. Et puis certains sont carrément absents, le livre d'Esther. Donc vous voyez ici que, d'après ce classement, on se rend compte que certains livres, manifestement, ont une autorité supérieure à celle d'autres livres. Ils ont une importance supérieure à celle d'autres livres. Et ça, ça remet en question la perception que nous avons de la Bible. Nous percevons la Bible aujourd'hui comme étant un tout, comme étant un livre, un seul, unique, homogène, alors qu'en réalité, ce que nous observons à Qumran, c'est qu'il y a une grande disparité d'un livre à l'autre, et que tous les livres ne jouissent pas de la même autorité. Et puis on peut aller encore un peu plus loin quand on s'intéresse à ces livres-là. On se dit, bon, d'accord, admettons, tel et tel livre a une grande autorité. Le Pentateuque a une grande autorité. Les psaumes sont lus, manifestement, une quarantaine d'exemplaires des psaumes. Mais si on va un peu plus loin, on peut aussi se poser la question de dire, mais est-ce que le texte qu'il lisait à l'époque, est-ce que c'est celui que nous connaissons aujourd'hui? Je vous disais tout à l'heure, quand vous lisez votre traduction moderne française de la Bible, à partir de l'hébreu, elle est faite sur un manuscrit hébreu qui date de l'an 1000 de notre ère. Et là, les manuscrits, ils ne datent pas de l'an 1000 de notre ère, ils datent du tournant de notre ère. Ils sont 1000 ans plus anciens. Et donc, on peut se poser la question, disons, mais est-ce que le texte est le même? Est-ce qu'il y a des différences? Et s'il y a des différences, de quel ordre sont-elles? Alors, je vais vous donner un exemple. On observe des variantes entre les manuscrits. Alors, ce manuscrit est à Paris, il est au musée Bible et Terre Sainte, qui est rue d'Assas. Et en haut, on observe les dernières lignes d'un psaume. C'est le psaume 31. Alors après le psaume 31, on va lire le psaume suivant, donc c'est le psaume 32. Voilà, c'est juste pour vérifier s'il y en a qui suivent. C'est bien, parce que... Non mais j'en vois qu'ils commencent déjà à dormir, donc j'essaie de vous réveiller un peu. Eh bien figurez-vous que non, c'est pas le psaume 32 que l'on trouve après le psaume 31. En fait, on a le psaume 33. Alors on lit le psaume 33, on arrive à la fin du psaume 33, et on se dit, bah, après le psaume 33, on va lire le psaume 34. Voilà, c'est bien, il y en a... Je sens que vous êtes réveillé maintenant. Eh bien, là encore, manque de chance, ce n'est pas le psaume 34 qui est copié juste après, c'est le psaume 35. Alors, où est passé le psaume 32? Où est passé le psaume 34? Peut-être que ces psaumes n'étaient pas du tout présents dans ce manuscrit. Peut-être qu'ils étaient copiés mais à un autre endroit. Je vous disais tout à l'heure, on a découvert des manuscrits des psaumes avec le psaume 151, avec le psaume 153, le psaume 154. Donc, quand je vous dis tout à l'heure, il y a une quarantaine d'exemplaires du livre des psaumes, en réalité, ce ne sont pas 40 exemplaires identiques. En réalité, chaque exemplaire du livre des psaumes est différent. Chaque exemplaire du livre des psaumes a un contenu qui lui est propre, avec des psaumes qui sont présents, des psaumes qui sont absents, avec des psaumes qui ont été ajoutés, des psaumes qui ont été déplacés, parfois le même psaume, mais avec des variantes par rapport aux psaumes que nous connaissons, par exemple des versets en plus ou des versets en moins. Et ça évoque évidemment la question de la rédaction du texte biblique, la rédaction du livre même des psaumes, de dire finalement, comment est-ce que ce livre des psaumes a été rédigé? Est-ce que c'est un jour quelqu'un qui s'est assis en disant, voilà, je vais m'asseoir et je vais rédiger 150 psaumes du premier au dernier? En fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est fait. Quand vous regardez la rédaction du livre des psaumes, vous vous rendez compte qu'il y a des blocs. Il y a des blocs, des corpus, des psautiers à l'intérieur du psautier. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que certains psaumes sont en double. Alors vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais par exemple le psaume 14 et le psaume 53 sont strictement identiques. C'est exactement le même psaume. Alors à quoi ça sert, quand on a 150 psaumes, de mettre deux fois le même? Alors quand je dis qu'ils sont strictement identiques, ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, dans le psaume 14, on utilise le nom propre Yahvé, le tétragramme, c'est le nom propre du Dieu d'Israël, alors que dans le psaume 53, on utilise un autre mot hébreu, Elohim, qui veut dire les dieux au pluriel, mais c'est devenu le titre donné à Dieu dans d'autres milieux. Donc on se rend compte qu'en fait, ces deux psaumes C'est le même psaume, mais le psaume qui a transité par des communautés différentes. Des communautés qui avaient l'habitude d'appeler Dieu Yahvé et des communautés qui avaient l'habitude d'appeler Dieu Elohim. Alors on appelle ça des communautés yavistes et éloïstes. Mais bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'après ça, ça devient un petit peu technique. Mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a différentes communautés. Chacune d'entre elles rédige son psautier, compile, si vous voulez, son recueil de psaumes. Parfois, le même psaume s'est retrouvé des deux côtés. Et à un moment donné, on a rassemblé ces psautiers, on les a mis ensemble pour faire un grand livre des psaumes qui a encore été augmenté et encore augmenté et encore augmenté. Et en réalité, à Qumran, en fait, on est encore à l'époque où on continue à étoffer le psautier, à lui ajouter des psaumes, à dire finalement ce psaume il est mieux à cet endroit-là parce que ça permet d'enchaîner avec tel autre psaume, etc., etc. Donc grâce au manuscrit de la Mer Morte, on observe la Bible en train d'être écrite, en train d'être rédigée. Donc on est vraiment témoin du processus de rédaction de la Bible. Et ça, c'est une chance fabuleuse, c'est ce qui nous permet d'ajouter de l'épaisseur à la Bible, de pas simplement voir la Bible comme étant un produit fini tel qu'elle est aujourd'hui à l'heure actuelle, mais de voir la dimension temporelle, comment elle évolue dans le temps. Ça rajoute une troisième dimension. C'est comme, vous savez, en ce moment, c'est la mode quand on va au cinéma, à l'entrée de la salle, on vous donne des lunettes. Et au lieu de voir le film en deux dimensions, vous voyez le film en trois dimensions. Eh bien, en fait, grâce au manuscrit de la Mer Morte, on peut voir la Bible en trois dimensions. On peut voir la Bible en relief. Et donc, ça, c'était un exemple pour vous montrer l'existence de variantes entre les différents manuscrits. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, un certain nombre de ces variantes, figurez-vous qu'on les connaissait déjà, avant la découverte de Qumran. Alors, vous allez me dire, comment ? Puisque je viens de dire qu'on n'avait pas de manuscrits hébreux plus anciens. On avait des manuscrits de la Bible, plus ancien que les manuscrits hébreux, mais qui était en grec. Je vous ai dit tout à l'heure, la traduction de la Bible en araméen et en grec, elle date probablement de plusieurs siècles avant notre ère. Autrement dit, dès le 4e ou le 3e siècle avant notre ère, pour le grec, à partir du 3e siècle avant notre ère certainement, on dit, il y a des judéens qui sont partis vivre à Alexandrie, donc en Égypte. Ils ne parlent plus hébreu, les grands-parents parlent bien hébreu, les parents ne parlent plus très bien, et puis aujourd'hui, la troisième génération ne parle plus du tout hébreu, les pauvres ne peuvent plus. Donc, on va traduire en grec. Et donc, on avait des manuscrits de cette version grecque de la Bible, cette version ancienne. Et il y avait des différences. On avait le texte hébreu d'un côté, le texte grec de l'autre côté. On dit, mais c'est quand même bizarre, c'est pas la même chose. Alors, certains disaient, c'est le traducteur grec qui un petit peu farfelu, s'est amusé, comme ça, a changé, etc. C'est probablement ça, ou alors il a adapté, il a contextualisé, etc. En réalité, c'est pas ça qui s'est passé. En réalité, le traducteur grec, qui est là, à Alexandrie, en Égypte, au 3e siècle avant notre ère, au 2e siècle avant notre ère, il a un manuscrit hébreu sous les yeux, qui l'aide à préparer sa traduction grecque. Simplement, le manuscrit hébreu qu'il avait sous les yeux, au 2e siècle avant notre ère, c'était pas le même manuscrit que le texte hébreu que nous connaissions, qui date de l'an 1000 de notre ère. Il avait une autre recension, ce qu'on appelle une recension. Il avait une autre recension du texte hébreu, un texte hébreu avec d'autres variantes. Mais on n'en avait pas la preuve, parce que justement, on n'avait pas de manuscrit hébreu de cette époque. Mais maintenant, on a découvert des manuscrits hébreux du 2e siècle avant notre ère, du 1er siècle avant notre ère, ces manuscrits de Qumran. Donc on a la preuve de l'existence de recension du texte biblique à l'époque. Alors je vais faire encore un petit peu des statistiques. 40% des manuscrits bibliques découverts à Qumran, les manuscrits bibliques c'est environ 230-240 manuscrits. Sur ces 230-240 manuscrits, 40% sont proches du texte proto-massorétique, excusez le gros mot, c'est-à-dire le texte massorétique, c'est le fameux texte dont je vous parlais tout à l'heure qui date de l'an 1000 de notre ère. Donc, autrement dit, 40% de ces manuscrits correspondent plus ou moins au texte que l'on connaissait avant la découverte de Qumran. Donc on est content, on dit ah oui, d'accord, effectivement, il y a des manuscrits qui correspondent, ce qui prouve que, effectivement, en 1000 ans, le texte n'a pas beaucoup bougé, c'est-à-dire que ceux qui ont copié cette version hébraïque du texte, la version dite massorétique, en fait, des scribes très sérieux, ils n'ont pas vraiment fait de faute, et en 1000 ans, le texte n'a pas beaucoup bougé. Et ça correspond à peu près à 40% des manuscrits. Et on a découvert d'autres manuscrits, 5% d'entre eux, qui correspondent à cette ancienne version grecque dont je vous parlais tout à l'heure, en disant, mais finalement, cette version grecque qui a été réalisée au 3e, 2e siècle avant notre ère, en réalité, elle était faite sur un texte hébreu, et ce texte hébreu, on l'a découvert. Il est attesté par un certain nombre de manuscrits à Qumran. Et puis, 5% 10% également, sont proches de la recension samaritaine. Autrement dit, ils correspondent aux textes que les Samaritains avaient l'habitude de lire. Ces fameux Samaritains, je disais tout à l'heure, qui n'ont que le Pentateuch, et qui aujourd'hui encore, d'ailleurs, ne lisent que le Pentateuch. Et vous pouvez leur rendre visite, hein, ils sont sur le mont Garizim. Vous connaissez peut-être l'histoire, dans Jean chapitre 4, de Jésus qui s'arrête et qui discute avec une femme qui vient de Samarie. Il y a cette conversation, elle lui dit, mais vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, nous dites que c'est sur le mont Garizim, nous disons que c'est sur le mont Garizim, parce qu'effectivement, il y avait un temple des deux côtés. Mais les Samaritains, à l'époque, étaient très nombreux, et ces Samaritains avaient des manuscrits en hébreu avec une écriture particulière, une écriture samaritaine, et il y avait des variantes. Vous avez côte à côte un manuscrit du livre de Jérémie en hébreu qui correspond au texte qu'on connaissait, et un manuscrit du livre de Jérémie, qui est lui aussi en hébreu, mais qui correspond à une autre version du livre de Jérémie, celle qui était connue par la traduction grecque ancienne. Et pourtant les deux manuscrits sont en hébreu, les deux manuscrits date de la même époque, ils ont peut-être été copiés par deux camarades qui copiaient côte à côte et qui disaient « Tiens, allez, on va prendre une petite pause café, tu viens avec moi au distributeur. » Et puis ensuite, hop, on retourne copier le manuscrit, alors qu'ils sont en train de copier des manuscrits qui appartiennent à des recensions différentes. Donc ça veut dire qu'à l'époque, le texte n'est pas figé. Alors, dites-moi, 40 plus 5 plus 5, on arrive à la moitié des manuscrits bibliques. C'est bien, je vous ai vu pour vérifier que vous n'étiez pas encore tous endormis. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la moitié qui reste? En fait, la moitié qui reste, ils n'appartiennent à aucune de ces catégories-là. 50% des manuscrits bibliques, en fait, correspondent à une autre version, une autre recension du texte biblique qu'on ne connaissait pas auparavant, totalement inconnue jusqu'alors, ou alors qui parfois penche d'un côté, parfois de l'autre, sur certains versets correspondent plutôt au texte proto-massorétique, sur certains autres versets correspondent plutôt à la recension connue par le grec, etc. En tout cas, ce sont des manuscrits qui ne rentrent pas clairement dans ces catégories-là. 50%, c'est colossal. Un scribe, je vous le disais tout à l'heure, n'est pas simplement une photocopieuse vivante, humaine. Le scribe, c'est un rédacteur, c'est un lettré, c'est quelqu'un qui est intelligent. Il regarde le texte et il se dit « Ah, là, j'ai tel mot dans ce verset, mais tiens, je vais le remplacer par tel autre mot, parce que ça rend mieux. » La conclusion que l'on dresse de cet inventaire, c'est que le texte biblique est vivant à l'époque. Et ça veut dire que quand on étudie le texte biblique aujourd'hui, là encore, on a l'impression d'avoir un texte finalement figé, définitif, en français. On ne se rend pas compte de l'histoire, de l'évolution du texte. Et le fait d'étudier ce texte dans sa profondeur historique, ça nous permet de voir comment il a été rédigé, quelles ont été les phases successives de rédaction du texte. Toujours dans ce même questionnement sur les révélations de Qumran sur la Bible, je vous disais tout à l'heure, finalement, Qumran, c'est aussi l'époque des premiers chrétiens. C'est l'époque de Jésus, c'est l'époque de Paul, c'est l'époque des apôtres. Et donc, il est naturel de se poser la question de la Bible que les premiers chrétiens ont pu utiliser. Est-ce qu'ils avaient une Bible? La réponse est non, ils n'avaient pas une Bible en tant que telle. Est-ce qu'ils avaient des Écritures? Oui, bien sûr. Et vous vous rappelez tout à l'heure les fameux critères d'autorité que j'ai évoqués, que j'ai listés, le fait qu'il y ait des citations, le fait qu'on fasse des traductions, le fait qu'on fasse des commentaires, etc., etc. Si on regarde ces critères et qu'on les applique au Nouveau Testament, si on regarde, est-ce que finalement, dans les écrits des premiers chrétiens, Est-ce qu'on va citer des écritures? Oui, bien sûr. Quelles sont les écritures qu'on cite le plus? Est-ce que vous savez quels sont les livres de la Bible hébraïque qui sont les plus cités dans le Nouveau Testament? Eh bien, je vous donne la réponse. D'une part, vous avez le Deutéronome, qui arrive en tête, ensuite le livre d'Isaïe et le livre des Psaumes. Et si vous regardez, ce sont les mêmes livres que ceux, nous avons dit tout à l'heure, qu'ils avaient une autorité fondamentale, la plus grande importance. Je vous donne un exemple. Dans Matthieu chapitre 4, vous avez le récit de la tentation. Jésus est conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Et le diable, à trois reprises, vient et le tente, le met à l'épreuve. À chaque fois, Jésus répond, il est écrit. Et le diable essaye autre chose, et Jésus répond, il est encore écrit. Et le diable essaye encore autre chose, et Jésus dit, il est écrit. À chaque fois que le diable met Jésus à l'épreuve, Jésus répond par une citation. Est-ce que vous savez ce qu'il cite? Le Deutéronome. Il cite le Deutéronome, les chapitres 6 et 8 du Deutéronome. À l'époque, l'autorité des livres que nous avons jetés dans la Bible n'était pas homogène. Certains livres avaient manifestement une autorité plus importante, ou en tout cas étaient davantage lus. Parce qu'il y a également des raisons très matérielles, pragmatiques, qui fait que on ne pouvait pas accéder à des dizaines et des dizaines de livres à l'époque. Aujourd'hui, bien sûr, on a nos Bibles dans notre téléphone. On peut avoir des encyclopédies entières dans son téléphone. Mais à l'époque, c'est pas possible. Les textes sont copiés sur de grands rouleaux. Donc imaginez, si vous devez accumuler des dizaines et des dizaines de rouleaux, il faut être très riche pour ça. On est obligé d'abord, c'est surtout dans les synagogues en fait qu'on a les rouleaux. Peut-être chez soi, si on est issu d'une famille évidemment riche, pour pouvoir se payer un rouleau. Et à ce moment-là, on va en avoir un. Alors, peut-être deux, peut-être trois maximum. Et donc, je reviens à ces trois livres, Deutéronome, Isaïe et Psaume. Si vous réfléchissez, imaginez, vous avez trois livres. On vous dit, voilà, vous pouvez choisir que trois livres. Et en même temps, avec ces trois livres, vous voulez avoir finalement l'essentiel du message de la Bible. Ben, si vous réfléchissez, finalement, avec le Deutéronome, vous avez la Torah. Avec Isaïe, vous avez les prophètes. Avec les psaumes, vous avez la liturgie. Donc, vous avez déjà, finalement, en soi, une mini-Bible. Mais ce n'est pas tout, je parlais des citations. Eh bien, dans le Nouveau Testament, on cite évidemment abondamment Deutéronome, Isaïe et Psaume, mais pas uniquement. On cite également le livre d'Enoch. Alors, on le cite une fois dans le Nouveau Testament. Le personnage d'Enoch est mentionné dans l'Épître aux Hébreux, mais la citation, elle est dans l'Épître de Jude. Mais ce n'est pas n'importe quelle citation. Si vous lisez, c'est dans Jude, au verset 14. Et au verset 14, Jude dit « Ainsi a prophétisé Enoch le septième depuis Adam. » Alors tout d'abord, il ne dit pas « Ainsi a dit Enoch. » Parce que finalement, si c'est Enoch qui l'a dit, ça n'engage que lui. Mais il dit « Ainsi a prophétisé Enoch. » Autrement dit, ce qu'Enoch a dit, la définition même du prophète, c'est quelqu'un qui ne parle pas de lui-même, c'est quelqu'un qui transmet le message qu'il a reçu. Un prophète de Dieu, c'est quelqu'un qui apporte le message qui lui a été donné de Dieu. Donc si Enoch a prophétisé, ça veut dire que ce message ne vient pas de lui, ce message vient de Dieu. Et puis il insiste sur le fait qu'Enoch est le septième depuis Adam. Et si on regarde la généalogie, alors ça nous renvoie à Genèse au chapitre 5, vous avez la généalogie des patriarches avant le déluge, les patriarches antédiluviens. Depuis Adam jusqu'à Noé, il y a 10 générations. Et Enoch est en 7e position. Alors vous allez me dire, bon, c'est une coïncidence. Mais en fait, pas du tout. Parce que si vous regardez au chapitre précédent, dans Genèse chapitre 4, vous avez aussi une généalogie, et vous retrouvez notre ami Enoch. Vous avez les deux généalogies sont en fait les mêmes, elles ont évolué différemment, et elles sont sensiblement les mêmes, à l'exception d'une permutation. Enoch a permuté avec un autre patriarche, entre Genèse 4 et Genèse 5, pour arriver en 7e position. Autrement dit, pour le rédacteur de la Genèse qui rédige Genèse 5 et qui copie cette généalogie en Genèse 5, il place Adam en 7e position. Cette position n'est pas accidentelle, elle n'est pas fortuite, et l'auteur de l'Épître de Jude le sait très bien. Et il le souligne. Enoch est le 7e depuis Adam. Et le 7, chiffre 7, évidemment, est un chiffre divin. Si je cite quelqu'un, si l'auteur de cette épître va citer Enoch, c'est parce qu'il sait que ses lecteurs vont y être sensibles et que lui-même et ses lecteurs reconnaissent l'autorité d'Enoch. Alors, ça ne veut pas dire que tous les chrétiens de l'époque reconnaissaient l'autorité du livre d'Enoch. Donc, en fait, dans les premières communautés chrétiennes, il y avait différentes sensibilités, différentes tendances. Certaines d'entre elles reconnaissaient à Enoch une véritable autorité scripturaire.
Indépendamment des livres de la Bible, là, qu'est-ce qu'on trouve dans les manuscrits de Qumran ?
Alors, tout un tas de livres, on parlait tout à l'heure du rouleau du temple, par exemple. C'est un rouleau qui, à mon avis, se présente tout autant comme un manuscrit biblique, sauf que là encore, il n'a pas été retenu dans le canon biblique. Alors c'est pareil, je vous dis, dans quelques mois, vous aurez une édition bilingue du rouleau du temple. Je l'ai fini, je suis en train de la relire, je suis en train de vérifier qu'il n'y a pas de faute typographique, etc. J'ajoute les notes de bas de page, j'ai 1600 notes de bas de page sur le texte, donc vous aurez de quoi, lire et pour vous aider à comprendre toute l'importance de ce texte. Mais dans le rouleau du temple, on reprend des genres littéraires que vous connaissez déjà. Donc les autres manuscrits reprennent les genres littéraires que vous connaissez déjà dans la Bible, mais en développant ces textes. Je vous donne un exemple dans le rouleau du temple. Dans le rouleau du temple, à un moment donné, on revient sur la loi qui concerne le roi. Cette loi, elle est décrite dans le Deutéronome chapitre 17. Et on nous dit, s'il y a un roi, attention, le roi ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne faut pas qu'il multiplie les chevaux, il ne faut pas qu'il multiplie l'or et l'argent, il ne faut pas qu'il multiplie les femmes, etc. etc. Et on dit aussi qu'il doit avoir une copie du livre de la Torah qui lui sera remise par les prêtres. Autrement dit, c'est une façon de dire, attention, le roi ne fait pas ce qu'il veut, il est quand même assujetti à l'autorité des prêtres, donc le pouvoir sacerdotal, donc le pouvoir royal est assujetti au pouvoir sacerdotal, et en particulier au texte écrit, la Torah écrite. Eh bien, dans le rouleau du temple, on a la surprise de voir qu'on va beaucoup plus loin. D'abord, on va restreindre encore plus le pouvoir du roi en lui adjoignant un conseil. Il y aura un conseil de 36 délégués, 12 représentants pour chacune des 12 tribus d'Israël, 12 prêtres et 12 lévites. Et on nous dit le roi ne peut rien faire sans avoir consulté ce conseil. Donc là, vraiment, le roi, il se retrouve, c'est plus vraiment un roi, quoi. Et par exemple, en ce qui concerne les femmes, on dit il ne peut avoir qu'une seule femme. Et cette femme, elle, ça n'a pas été une femme étrangère, c'est une femme de son clan. Il doit rester avec elle jusqu'à ce qu'elle meure. Et c'est seulement à sa mort qu'il peut en prendre une autre. Dans ces quelques lignes, on impose la monogamie par rapport à la polygamie et on interdit le divorce. Et ça, croyez-moi, c'est révolutionnaire. Parce que dans le judaïsme, on n'a aucune trace de ce type de croyance. Y compris dans le judaïsme rabbinique plus tard. Les rabbins, dans la Mishnah et le Talmud, quand on discute de ce passage de Deutéronome, on dit combien. Alors, il ne faut pas qu'ils multiplient les femmes. Et les rabbins disent c'est combien multiplier, d'accord, mais bon. Alors, on dit 18 femmes, c'est trop. Donc, peut-être 17, ça passe encore, maximum, et pas 18. Voilà, par exemple. Mais il n'est pas du tout question d'une seule femme. À vrai dire, le seul parallèle que l'on a à l'époque dans la littérature juive sur la monogamie et sur le divorce, c'est dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est le seul parallèle. Quand vous avez Jésus, qui est, les pharisiens viennent le voir, et ils essaient de lui tendre un piège en disant pour quel critère est-ce qu'on peut répudier sa femme ? Pour quel critère on peut divorcer de sa femme ? Puisqu'à l'époque, dans le judaïsme, dans certains rabbins, on interrogeait les rabbins en disant mais quels sont les critères ? Il y avait un rabbin très célèbre de l'époque qui disait bah, pour n'importe quelle raison, si elle laisse brûler le repas sur le feu, c'est un motif de divorce. Bon. Et Jésus, lui, par rapport à ça, est très clair, il dit pas du tout. Il dit, il cite la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et donc Jésus, là, condamne le divorce. Dans l'évangile de Marc, il n'y a aucune exception possible. Dans l'évangile de Matthieu, il y a une exception, la fameuse exception mathéenne, on dit, oui, bon, finalement, si, en cas d'adultère, on peut quand même divorcer. Mais vous voyez que le divorce est à peine toléré dans le Nouveau Testament. La monogamie, on la trouve dans les épîtres pastorales, les épîtres à Timothée et à Tite. Quand il est question des épiscopes, ceux qui ont une responsabilité dans les communautés chrétiennes, on dit « il faut que celui qui désire être épiscope soit mari d'une seule femme ». Donc vous voyez ces versets que l'on trouve dans le Nouveau Testament, et peut-être que vous les avez lus, et peut-être que vous ne vous étiez pas posé de questions sur l'originalité ou la nouveauté de ces versets. Eh bien en réalité, ces prises de position, elles sont pratiquement uniques dans le judaïsme de l'époque. Et le seul parallèle que l'on connaît, et que l'on connaît aujourd'hui, c'est grâce au manuscrit de la Mer Morte, grâce au rouleau du Temple. Je vous remercie de votre attention.